Alors, je m'en cache pas. J'aime le patrimoine. Puis je suis pas vieillot pour autant. Mais je trouve que c'est une des plus belles manières de raconter l'histoire que d'avoir une preuve vivante d'une maison qui a été bâtie il y a 200, 250, 300 ans avec les outils du temps, avec les méthodes du temps. Je trouve que c'est une espèce de cours d'histoire vivant. Et des maisons patrimoniales, qu'est-ce que tu veux, on en a de moins en moins parce que elles sont, qu'est-ce que tu veux, elles sont laissées à elles-mêmes plus souvent qu'autrement. Elles sont détruites, puis on bâtit à la place des bungalows ou des condos, peu importe. Il y en a eu plein d'exemples ces dernières années. Et là, ce matin, il y a un exemple dans le Journal de Montréal. C'est raconté par Julien McEvoy. Il nous raconte l'histoire de Monique Leclerc. Elle vit à Carignan, dans une belle ancestrale qui date de 1785. Et là, le drame de Mme Leclerc, c'est qu'elle n'est plus capable d'assurer sa maison ancestrale. Écoutez, en 2019-2020, sa police d'assurance lui coûtait 3 000 $. L'année suivante, il n'y a plus personne qui voulait l'assurer. Finalement, il y a 4 assureurs qui ont accepté d'assurer la maison, mais ils demandent chacun 3 000. Fait que ça lui a coûté au total 13 000 $ pour assurer sa maison. Fait que comprenez-vous que le jour où elle va vouloir la vendre, elle sera pas capable de la vendre parce qu'il n'y a pas personne qui va acheter une maison qui va lui coûter 13 000 $ à assurer. Alors, c'est un vrai problème. Puis là, la ministre de la Culture dit qu'elle se penche sur la question, etc., etc. Bon, on ne sait pas trop ce qui va arriver avec ça. Il y a un journaliste qui couvre ça systématiquement, les histoires de maisons ancestrales, et qui le fait très bien. Il s'appelle Jean-François Nadeau, journaliste au Devoir. Salut, Jean-François.
Salut, Bernard. Ben oui, c'est un vrai problème. Puis ça date pas d'hier. Hein. Ça fait longtemps qu'on parle de ça, les problèmes d'assurabilité des maisons anciennes. Évidemment, on peut toujours tirer le diable par la queue en trouvant des cas particuliers. Le cas de madame là que tu signales à raison est très, très intéressant. Mais je suis toujours étonné des fois des fausses bonnes solutions que les gens ont. Parce que ce qu'elle nous dit à la fin, la madame, puisque le journaliste laisse entendre aussi au Journal de Montréal, c'est que la solution, c'est de cesser de protéger ces maisons-là pour que leur assurabilité redevienne meilleure. C'est un peu comme si après une tempête de neige en hiver, on se retrouve avec de la glace sur les trottoirs, puis que là, les citoyens disent la solution, c'est d'enlever les trottoirs ou d'arrêter l'hiver. On comprend que ce n'est pas exactement la bonne solution. On est tous les deux d'accord, je pense. Ces maisons-là, il y a un vrai problème. Il faut trouver des façons de les conserver. En ce moment, on est dans une espèce de passion générale comme société pour les fausses villas espagnoles, du néoclassique, du néo-victorien avec des garages triples, quadruples, avec de la similipierre véritable. Puis on dirait qu'on se fait un bonheur d'habiter dans du faux vrai en nous donnant une espèce d'impression de grandeur. Puis on oublie, Bernard, puis je pense que tu seras d'accord avec moi, on n'a jamais autant utilisé le mot « authenticité ». Tout le monde a ça à la bouche comme étant quelque chose d'important. Ben, c'est bon pour les maisons aussi. C'est un reflet de ce qu'on a été, de ce qu'on est maintenant, puis de ce qu'on risque de représenter pour l'avenir aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une société qui n'a plus qu'à offrir des maisons, des simili-vraies maisons anciennes qui ont 15 ans puis qui sont déjà bonnes à démolir parce que les matériaux ne sont plus de la qualité que ceux dont on utilisait autrefois.
Je souscris entièrement, je signe en bas de la page de ce que tu viens de dire. Maintenant, c'est quoi la solution au niveau de l'assurance? Est-ce qu'il y en a une solution? C'est quoi? Ça prend une protection une protection de l'État, mais... J'hésite à aller là parce que là, les gens vont dire « Bon, c'est bien nos taxes puis nos impôts qui vont servir à protéger des vieux croutons de 250 ans. »
Bon, alors, il y a plusieurs aspects à ça. Il n'y a pas une solution. Effectivement, la question aussi est de savoir que la propriété peut être privée, mais la beauté appartient à tout le monde. Quand on rase dans un village, vous avez vu aujourd'hui, par exemple, à Saint-Michel-de-Bellechasse, le troisième plus vieux presbytère en Amérique du Nord était menacé là, depuis un an. Le maire qui était là jusqu'à en novembre, on en faisait très peu de cas. Là, la ministre vient d'accepter de faire une intention de classement, ce qui fait en sorte que le bâtiment risque d'être protégé. Ben, ça a des coûts, bien sûr, individuels, mais c'est classé comme un des plus beaux villages au Québec. Les gens vont voir ce village-là parce que son cœur bâti est impressionnant. Ça a une valeur collective pour tout le monde, la beauté privée, d'une certaine façon, d'une part. D'autre part, il faut comprendre qu'on est rendu dans une accélération, on vit dans une espèce de présent permanent où on a oublié que des maisons, c'est pas juste des 2x4 encore un peu verts, cloués avec des cloueuses électrique, puis finit vite avec du placoplate, vite fait, dont on tire les joints. Il y a des métiers qui viennent avec tout ça qu'on a oublié dans une situation où on cherche des débouchés là, dans l'univers du bâtiment. Il y a toutes sortes de métiers qu'il faut revaloriser, qui peuvent être utiles, qui servent à maintenir ce qu'on a été, puis qui sont des savoirs réels, puis qui sont des sources de fierté. Tailleur de pierre, menuisier, charpentier, forgeron, c'est des travaux qui sont encore nécessaires dans plusieurs maisons, là, les tenons, les mortaises, les chevilles, tout ça. Il y en a des bâtiments qui ont besoin de ça. Puis les gens qui savent faire ça sont des gens précieux qu'on n'a pas assez valorisés. Bien sûr qu'il y a une réflexion à faire, puis une réflexion collective à cet égard-là qui est importante, moi je pense, Bernard, c'est-à-dire que la façade de la réalité qu'on donne là, sur nous-mêmes, est-ce qu'on est incapable de considérer autrement que sur nos plaques de voiture, là, je me souviens, est-ce que ça va être juste une plaque sur nos voitures qu'on change aux 3-4 ans, mais dont on ne se souviendra pas de grand-chose d'autre au fond, ou si on est les moyens collectivement de se donner une sorte d'élan pour considérer que et les codes du bâtiment, ça change tout le temps, avec raison, hein. Être aux normes aujourd'hui, c'est pas être aux normes hier, ça a déjà changé il y a 10 ans, il y a 20 ans. Alors, on peut pas demander à un bâtiment qui date du 18e siècle, donc de 1700 quelque chose, d'avoir les mêmes finalités, puis le même système de chauffage central, puis le même tout que partout. Est-ce qu'on peut avoir un peu de latitude? Et est-ce qu'on peut, comme société, cesser d'avoir peur d'avoir peur? Alors, le bâtiment qui était patrimonial, puis qui était pas patrimonial, puis qui était assuré hier, le jour où on déclare qu'il est patrimonial, puis que c'est une valeur collective, il devient pas plus dangereux, mais les assureurs sont devant une sorte de frilosité à l'égard de la nécessité de reconstruire à l'identique.
On s'entend qu'il devrait y avoir pour c'est faire... C'est ça l'argument. On refuse de t'assurer parce que comme elle est classée patrimoniale, si jamais il arrive quelque chose, un incendie, peu importe, ah ben là, on va être obligé de te payer une compensation. La police d'assurance va devoir te verser le montant pour reconstruire à l'identique, puis on n'est pas prêt à te verser ce montant-là, c'est ça?
Ben, puis comment évaluer ça? Puis qui peut refaire ça? Puis est-ce que ça a du sens, de toute façon, de faire du simili ancien véritable? Tu sais, les imitations d'anciens, on n'est pas dans l'authentique. La valeur d'un objet ancien, c'est pas d'être capable de le reproduire, c'est capable d'être la Joconde, là, au Louvre, à Paris. Il y a des millions de personnes qui vont la voir chaque année. C'est pas parce qu'on n'est pas capable de la reproduire sur des cartes postales ou sur des petits magnets qu'on met sur le frigo. C'est parce que c'est la vraie. Hein? Il y a quelque chose de particulier à se trouver devant
l'authentique. Alors, il faut que l'État intervienne, Jean-François, pour obliger les assureurs à assurer ces maisons-là?
Ben, il faut réfléchir, en tout cas, avec les assureurs pour moduler, pour trouver des façons d'avoir plus de souplesse puis de servir de notre tête un peu. Il faut avoir un peu de bon sens. Il faut être capable d'avoir des modalités qui sont différentes pour des choses qui le sont et qui sont, par leur différence, d'une plus grande valeur, peut-être, que voilà. Les autres.
Bien dit. Jean-François Nadeau, journaliste au Devoir. Au plaisir de te lire, Jean-François.
À bientôt, Bernard. Au revoir.
À bientôt. DPJ, après la pause, donner un Noël à ces enfants-là, on va vous proposer des moyens.